Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes en mars 2016 et vous écoutez les chroniques du 74e épisode de Proxy Jeux. Merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Alors, nouvelle présentation pour les chroniques ce mois-ci. Je teste un truc. C'est un peu mon laboratoire, ce podcast. J'ose des trucs. Et donc, comme tout le monde n'est pas fan des petites scénettes qu'on joue avec Papy Grincheux, je me suis dit que je vais changer. Je vais préparer et je vais vous présenter un peu les chroniques autrement. Donc, dans les chroniques ce mois-ci, nous avons Fendoel qui non seulement a fait donc l'épisode 74 avec Babozor et Guilin, mais il nous gratifie encore d'une chronique s'il n'arrête plus. Donc c'est les plateaux numériques, c'est le jeu Patchwork qui est sorti sur Android et iOS il me semble depuis pas longtemps. Moi je l'avais découvert au week-end Proxy Jeux. C'est Papy Grincheux qui me l'avait vendu. Alors bon, moi de premier abord, un jeu où on fait de la couture, ça m'a pas excité quoi. Alors j'ai dit ouais bon, je veux bien. Je dis je verrai pour jouer avec ma belle-mère qui est fan de couture, et finalement en fait c'est très bien. La couture c'est un peu un thème accessoire, même si on doit faire un petit patchwork avec nos pièces. Mais c'est bien sympathique, quoi. Et ça change un peu des thèmes guerriers. On écoute Fête d'Oël tout de suite.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Fendoel, bienvenue dans ce nouveau numéro de Plateau Numérique où je vous présente Patchwork, un jeu de Uwe Rosenberg édité en France en 2015 chez Funforge. Uwe Rosenberg est connu pour de nombreux succès tels que Bonanza, Agricola ou Le Havre. Patchwork est à la limite du jeu abstrait et se joue exclusivement à deux joueurs. Dans ce jeu, vous devez simplement réaliser le plus beau patchwork, c'est-à-dire coudre ensemble différents morceaux d'étoffe pour en faire un assemblage avec le moins de trous possible. Pour cela, chaque joueur, à chaque tour, aura le choix parmi trois morceaux d'étoffe de formes variées. Pensez vraiment des formes type Tetris. Chaque morceau a un coût en bouton, la monnaie du jeu, et en temps. Et de plus, chaque pièce rapporte des boutons durant la phase de revenu. Le joueur choisit son morceau d'étoffe, le place sur son plateau, en paye le coût, et avance son personnage sur la piste du temps. Le fait d'avancer sur la piste du temps fait que le joueur peut déclencher une phase de revenu. Et évidemment, on continue comme ça jusqu'à ce que l'ensemble, les deux personnages arrivent à la fin de la piste du temps, et on calcule le nombre de points de monnaie, de boutons, qu'a chaque joueur, et c'est le score final. Le jeu est simple, pas trop hasardeux, pas trop calculatoire, le thème est original. Bref, moi j'aime beaucoup ce petit jeu. Et pour une fois, il sort en fait quelques mois après la sortie physique du jeu au format numérique. L'adaptation est faite par Digidiced, à qui l'on doit également l'adaptation de Le Havre, également de Uwe Rosenberg. Le tutoriel est vraiment bien fait. Il place le joueur dans un monde type Van Goghien, vraiment avec des couleurs un petit peu psychédéliques et vraiment en forme de bande, etc., concentrique, c'est assez étonnant. Et en fait, où tout est fait sous forme de patchwork, et dans lequel Ute, donc la petite fille, et Ou, le hibou, vous explique comment jouer. Bon, même si ça peut aller gnangnan, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que les animations sont excellentes et surtout elles nourrissent l'explication du jeu. Par exemple, quand une pièce est posée sur notre plateau, on voit une animation qui la coud et on comprend donc intuitivement qu'elle ne pourra plus être déplacée. Ceci rend la compréhension du tutoriel encore meilleure. Comme le jeu est assez simple, il est expliqué en 5-10 minutes et il est possible de terminer la partie qu'on a ainsi débutée avec le tutoriel. Au niveau des modes de jeu, on peut jouer soit en local contre un ami en pass and play ou contre l'IA qui possède trois niveaux de difficulté. D'un point de vue, on peut également jouer online, en amical, ce qui signifie en fait simplement jouer des parties non classées, ou en classé pour être dans le classement global de Digidice. Et c'est pas trop mal fait car on nous identifie avec notre compte Google Play, ou j'imagine Apple Play pour ceux qui utilisent un appareil iOS. Et en sachant que ces adversaires de l'EA, on peut voir si un joueur possède Le Havre ou Patchwork ou les deux. Parce qu'en fait, les deux jeux voilà, sont édités par Digidice et on a une petite icône devant chacun de ces adversaires. Les parties ne sont pas en temps réel, mais en différé. C'est-à-dire que chaque joueur joue un coup, puis l'autre joueur a 24 heures pour jouer le coup suivant. Il est possible de lancer simultanément 5 parties en ligne. Au niveau du gameplay, bah, l'interface, on s'y fait. C'est assez étonnant parce que l'interface est divisée en vraiment, vous avez deux colonnes, une colonne à gauche, une colonne à droite, et avec des icônes. Et bah, on connaît pas trop, on n'a pas trop la signification des icônes avant d'avoir cliqué dessus. Donc, on s'y fait à force parce que c'est pas écrit en toutes lettres ce que c'est. Mais ça va, on va cliquer sur le petit personnage, c'est notre profil, on va cliquer sur une espèce de liste, bah en fait c'est la liste des parties en cours, etc., etc. Le jeu est conforme au jeu original visuellement, avec une ambiance encore plus poussée, telle que je l'ai décrit un petit peu plus tôt. On a la possibilité également de faire pivoter les pièces sur le plateau en faisant avec deux doigts par exemple, ou en utilisant des boutons, ce qui est quand même vachement appréciable, parce que c'est pas forcément évident de le faire pivoter avec deux doigts. On reçoit des notifications dès qu'une partie et dès que c'est à notre tour de jouer hein, ou dès qu'une partie se lance, donc c'est toujours intéressant. Et il y a également la présence de petits achievements. Quelque chose d'un petit peu spécial, c'est que quand vous lancez le jeu, il faut vraiment cliquer sur la liste des parties en cours pour voir pour qu'ils rafraîchissent en fait la connexion avec le serveur multi. Ça, c'est un petit peu contre-intuitif, mais bon, pourquoi pas. Il n'y a pas trop de bugs. J'ai eu une fois où, en fait, j'ai lancé une partie et puis j'ai eu un petit flottement, mais en gros, on ferme le jeu, on relance et puis l'ensemble est sauvegardé, donc il n'y a pas trop de soucis. Les autres fonctionnalités sont tout simplement le jeu qui est disponible en quatre langues, allemand, anglais, français et espagnol, dans cet ordre. On peut augmenter la vitesse du jeu, ce qui permet de passer outre les animations qui peuvent être à la longue un petit peu fatigantes. Le calcul des points, donc soit on garde le calcul original, soit il est possible d'avoir un calcul positif, qui probablement ne prend pas en compte les trous qu'on aurait dans son patchwork, qui à la fin font des points négatifs. Donc c'est peut-être pour jouer avec des personnes débutantes. Le tarif, il est au prix de 2,99 € que ce soit sur Android ou sur iOS, avec la possibilité d'avoir des achats in-app à hauteur de 99 centimes. Alors en sachant que bah, les achats in-app sont tout à fait dispensables car il s'agit simplement de changer le fond d'écran. Donc c'est plus pour éventuellement soutenir les développeurs, pourquoi pas. Ma conclusion, bah vraiment c'est un must-have. Si vous avez aimé le jeu original, je vous recommande fortement ce jeu sur support numérique. Il permet d'y jouer de façon très rapide et bah dans les transports en commun, c'est 5-10 minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir faire votre petite partie par jour. C'est vraiment, vraiment très agréable. Si vous ne connaissez pas le jeu, bah je vous le recommande également. L'ambiance est vraiment bien, vraiment même plus poussée. Ils sont vraiment allés plus loin même que dans le jeu de plateau. Même si le thème n'est pas nécessairement accrocheur, en tout cas moi il ne m'accroche pas trop, ben on s'y fait et puis au final ben, c'est un jeu vraiment bien et on regrette absolument pas son achat.
Merci Fendoel pour cette chronique. Ensuite, les d'ailleurs, enfin le d'ailleurs, qu'il en reste plus qu'un sur les deux, parce qu'Alexis a un peu trop de choses à faire dans sa vie, donc il n'a plus le temps de nous faire des chroniques. Mais Guilin continue avec sa rubrique « Ça va trancher ». On lui souhaite de ne pas se trancher, lui, de ne pas se trancher des doigts, parce que sinon ça va être difficile de faire du print and play. Ce mois-ci, ou cette semaine, on ne va pas faire toutes les semaines non plus, quoi. Donc ce mois-ci, il nous propose Arrival Gigi Lamoroso, comment on pourrait dire. Et donc on écoute tout de suite son avis tranché. À toi Guilin.
La ville est détruite. Tout le monde est mort. Le siège a été horrible. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Quatre cents peut-être survivants. Je dois les guider maintenant. Nous devons rejoindre Rez, la ville des anciens. Au nord-est, les montagnes menaçantes, personne n'est jamais revenu. Et devant la plaine, ses dangers, je dois mener les clans. Je dois trouver la route. La route du passé. Il ne faut pas qu'ils se divisent. Il faut qu'ils gardent leur âme. Allons, explorons, cherchons, trouvons notre chemin.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Courju. Je vous présente aujourd'hui le jeu Arrival. C'est un jeu solitaire, encore un, de Paolo Pellegri, qui est sorti en 2012, mais que j'ai découvert assez récemment. C'est un jeu qui se joue en 15 minutes, une demi-heure à peu près, qui est constitué de petites cartes, d'un petit plateau individuel et d'une petite quinzaine de jetons.
Ils nous poursuivent. Nous devons fuir sans attendre. Avançons. Nous partons vers le nord.
L'histoire du jeu raconte comment quatre clans rescapés d'une razzia sur leur ville s'échappe et tente de rejoindre la ville des anciens. Le jeu va donc consister en une quête, en une exploration, sur une carte de 8 cases par 8 cases, comme un échiquier. Et donc le joueur va devoir choisir par quel chemin diriger ses clans, en gérant plusieurs variables, et évidemment les événements qui vont surgir, les différents types de terrains, etc.
Ici, nous nous reposons, nous collectons un peu de nourriture. Les monstres se rapprochent, et nous devons nourrir nos clans. Nous commençons à nous diriger vers l'est.
Donc la mécanique de base, c'est qu'en fait, sur chaque carte qu'on va jouer, il va y avoir une icône qui représente le type de terrain sur lequel on est, et donc l'événement y afférent. Par exemple, vous êtes sur un terrain où il y a du gibier, vous pouvez prendre la décision de chasser, mais votre peuple il est pas trop amateur de chasse, il trouve que c'est pas très très correct, donc il va perdre un petit peu de sa foi, de son âme. Vous pouvez tomber sur des rapaces géants.
Au nord, nous tombons sur un nid de bêtes atroces. Elles nous pourchassent. Nous ne pouvons les combattre.
Les rapaces géants, vous allez être obligés soit de sacrifier un peu de nourriture, soit de sacrifier un clan.
Nous ne pouvons plus sacrifier de nourriture. L'un des clans doit rester. Il doit se sacrifier pour le bien de tous. Et nous continuons notre route.
Vous allez pouvoir tomber sur des lieux sacrés où vous allez devoir vous arrêter pour prier. Ou bien perdre encore un peu de votre âme. Mais par contre, si vous vous arrêtez pour prier, vous allez regagner 2 valeurs d'âme.
Nous arrivons dans une zone envahie d'esprits de la nature. Si nous nous reposons ici, nous pourrons prier et restaurer notre confiance en nos dieux. Si nous ne le faisons pas, les dieux seront-ils mécontents de nous ? Nous choisissons le repos.
Donc il y a différents types de lieux comme ça, et à chaque fois que vous arrivez dans un lieu, vous allez pouvoir avoir le choix de vous reposer ou pas. Enfin, il y a certains lieux où on peut pas se reposer, typiquement là où il y a les rapaces géants, on peut pas se reposer. Mais sinon, vous allez pouvoir choisir de vous reposer ou pas. Quand vous vous reposez, ça peut être le repos du corps ou le repos de l'âme. C'est-à-dire, vous allez pouvoir collecter de la nourriture ou faire une prière et remonter votre niveau d'âme.
Avant de continuer notre route, nous prenons le temps de chercher un peu de nourriture.
Les monstres se rapprochent, mais nous devons nourrir nos clans. Donc du coup, on a parlé là déjà de trois variables, la nourriture, l'âme et le nombre de clans. On commence avec quatre clans, donc ça peut partir assez vite. Il y a une variable supplémentaire qui est les monstres qui nous poursuivent. Ces monstres, à chaque fois qu'on va se reposer, ils vont se rapprocher de nous. Et il y a certains chemins plus difficiles qui feront que les monstres vont se rapprocher aussi. Les chemins, comment ça se passe? Ben, en fait, sur les cartes, j'ai expliqué qu'il y avait les types de terrain. Mais il y a aussi, sur chaque carte, trois directions possibles à prendre à partir de du terrain où on est. Et à chaque direction possible, le type de connexion. Par exemple, ça peut être une rivière qui descend, une rivière qui monte, un chemin difficile parmi des collines ou la plaine. Selon le type de connexion, ben, les monstres vont se rapprocher ou au contraire vont s'éloigner. Typiquement, si vous prenez une rivière qui descend, parce que les monstres n'aiment pas l'eau, donc ils vont s'éloigner. Nous devons décider où continuer. Au nord, les pieds des montagnes nous ralentiraient et les monstres nous rattraperaient. À l'est, la route a l'air dégagée. Nous pourrions revenir au sud en suivant la rivière et gagner du temps sur les monstres. Mais revenir sur nos pas, à quoi bon? Et puis évidemment, chaque direction va vous faire avancer sur la carte. On part tout en bas à gauche de la carte, donc on se dirige au nord-est, vers en haut à droite, le point en haut à droite. Donc il va falloir arriver à avancer vers le nord, vers l'est, vers le nord, vers l'est. Sauf que évidemment, les cartes sont faites de telle manière que la route la plus difficile, c'est toujours vers le nord et vers l'est. Et c'est bien sûr toujours quand on redescend vers le sud que la rivière descend, par exemple, et que donc on peut éloigner les monstres. Puis, nous empruntons la route du nord, sacrée, il est vrai, et qui nous permet d'avancer vers notre destination. Donc il va falloir gérer les différentes ressources, gérer à quel moment on va se reposer. Il y a une variable intéressante qui est qu'on va pouvoir envoyer des éclaireurs. Du coup, ça va nous permettre de choisir deux cartes pour la prochaine carte où on va, au lieu de tirer la première carte du deck. Par contre, si on prend les éclaireurs, ça sous-entend dans la thématique du jeu qu'on a perdu du temps, puisque donc les éclaireurs, forcément, il faut attendre qu'ils reviennent. Et du coup, on n'a pas le droit, dans ce cas-là, de prendre des chemins... Enfin, on n'a pas le droit de prendre certains chemins. Voilà, le joueur va gagner s'il arrive à la fin de son tour à être en haut à droite du terrain, et il va perdre dès qu'il aura plus de nourriture, ou plus d'âmes, ou plus de clans, ou que les monstres l'ont rattrapé. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez sympa. Qui raconte vraiment une histoire comme certains jeux qu'on a pu vous présenter. Il est un petit peu difficile, mais bon, c'est le principe toujours pareil des jeux en solo. À fabriquer, c'est assez facile. Il y a la règle, c'est 4 pages imprimées, ça c'est rien. Il y a 2 pages de cartes, c'est des petites cartes, c'est-à-dire que sur chaque page, il y a 16 cartes. Elles existent en version noir et blanc ou en version couleur. Le plateau de jeu, c'est un petit plateau qui doit faire 10 cm sur 20. Que moi j'ai collé sur une dalle de lino adhésive, mais qu'on peut très bien jouer tout simplement en gardant la feuille comme ça dans sa main. Voilà, il faut quelques petits jetons et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie d'essayer. Donc Arrival, un chemin vers le passé, The Path of the Past, un jeu de Paolo Pellegri, disponible toujours pareil, disponible en PDF sur Board Game Geek. Sorti en 2012 pour à peu près 15 à 30 minutes et je dirais à partir de 8 ans, 10 ans, entre 8 ans et 10 ans. Voilà, maintenant que vous savez quoi faire de vos petits doigts, jouez bien! Les peuples se divisent et leur foi s'amenuise. Une journée de repos. Les monstres se rapprochent encore. De nouveau, ces terres désolées où le repos n'est pas possible. Et nous ne trouvons rien à manger. Notre quête est perdue.
Merci Guilain pour cette chronique. C'est lui qui a un peu pris le relais ce mois-ci pour nous faire voyager dans un monde un peu futuriste. Où la terre est détruite. C'était bien sympathique. En parlant toujours de voyage à travers l'espace, c'est le top 500 de BGG. Aujourd'hui, Père Castor nous parle de Alien Frontier, 106e sur le top BGG. Je spoil un peu sa chronique. Père Castor, on vous l'a pas encore bien présenté. C'est notre nouvelle recrue de cette saison, la nouvelle recrue alsacienne. On dit toujours, si vous avez des chroniques, si vous voulez faire des chroniques, envoyez-nous vos fichiers MP3. Et lui, il s'est pas laissé démonter et il nous a envoyé un premier top 500. Et du coup, il continue et on le remercie. On l'écoute tout de suite.
Salut les joueuses et salut les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. Avant de démarrer la présentation du jeu de cet épisode, je tenais à remercier l'ensemble des Patreons qui soutiennent le podcast. Grâce à eux, on a pu m'équiper d'un nouveau microphone qui vient remplacer mon micro-casque bon marché. Et normalement, sauf si j'ai fait des bêtises avec les réglages d'Audacity, vous devriez percevoir une nette amélioration de la qualité audio. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, et bizarrement, je possède assez peu de jeux qui traitent de cet univers. Je vous propose un voyage parmi les étoiles et nous allons nous embarquer dans Alien Frontiers. Alien Frontiers est un jeu de Tori Niemann sorti en 2010 et il pointe à la 106e place au classement BGG. Il existe plusieurs éditions du jeu et la boîte que j'ai entre les mains est la 4e édition en anglais éditée par Clever Mojo Games et Game Salute. Le jeu est jouable de 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des durées de partie de moins de 90 minutes. Le jeu vous met à la tête d'une faction ou d'un consortium dans une course à la conquête de la planète Maxwell, tout récemment découverte. Il faudra faire preuve de stratégie, d'opportunisme et d'un tout petit peu de chance pour être le premier à réussir à construire toutes ses colonies sur les territoires de la planète. Pour réussir votre colonisation, vous devrez gérer une flotte de vaisseaux ainsi qu'un stock de ressources. Vous démarrez la partie avec 3 vaisseaux et vous pourrez en acquérir jusqu'à 3 autres supplémentaires. La mécanique principale du jeu est la pose de dés ouvriers incarnés par vos vaisseaux. Au début de votre tour, vous lancez les dés et vous pourrez placer vos vaisseaux ou vos dés sur les 8 différentes infrastructures et stations qui orbitent autour de la planète Maxwell. Chaque infrastructure a un effet distinct, un nombre de places limité, un éventuel coût en ressources ainsi que des conditions d'activation qui dépendent de la valeur des dés. J'en présente quelques-unes sans rentrer dans tous les détails de règles pour ne pas être trop rébarbatif, mais par exemple on va avoir la station solaire qui va fournir des cubes de carburant, qui est la première ressource, en fonction de la valeur du déplacé. La lune minière permet de récupérer un cube de minerai, la deuxième ressource, mais va imposer de placer une valeur de dés supérieure ou égale à ceux déjà présents, que ce soit les nôtres ou ceux des adversaires. Autre exemple, l'avant-poste pirate, qui permet d'aller voler des ressources ou des technologies à des adversaires, nécessite de poser une suite de 3 dés. Ou encore la station de construction de vaisseaux qui impose de poser un double. L'artefact alien qui gravite autour de la planète permet de dénicher des cartes de technologie alien. Pour une fois, dans ce sinistre univers, on a affaire à des aliens qui sont plutôt sympas. Ils ont quitté la planète Maxwell et ils ont abandonné sur place un certain nombre de technologies prêtes à l'emploi. Ces découvertes vous aideront dans votre entreprise de colonisation et permettent surtout de maîtriser le hasard des dés en autorisant à modifier le résultat de certains des dés. Au moment de construire une colonie, vous êtes libre de choisir le territoire sur lequel la placer. Dès que vous êtes seul ou majoritaire sur un territoire, vous remportez le pouvoir de celui-ci. Mais attention, vous risquez également de le perdre si cette majorité est rompue. Du coup, au moment de placer une colonie, vous serez souvent tiraillé entre prendre le pouvoir d'un nouveau territoire ou retirer un pouvoir à un adversaire. Les pouvoirs permettent de faciliter l'utilisation des infrastructures orbitales, soit en diminuant les coûts ou en assouplissant les conditions d'activation. Les graphismes du jeu sont réalisés par Mark Maxwell, on retrouve le petit clin d'œil dans le nom de la planète, mais ce n'est pas le seul. Chaque territoire de la planète porte un nom de grands auteurs de science-fiction. On retrouvera par exemple le cratère Asimov ou encore la vallée Herbert. Asimov qui est notamment l'auteur du cycle Fondation et Herbert qui est l'auteur de Dune. Les graphismes ont un aspect très rétro et on a l'impression de se retrouver à l'âge d'or de la SF. Les vaisseaux, par exemple, ressemblent à des cigares en acier sans hublot ni panneaux solaires, et les canons laser ressemblent à des excroissances grossièrement soudées à la structure. Et ce type de graphisme colle assez bien avec l'ambiance générale du jeu. Le plateau principal est bien lisible, chaque station orbitale est décorée avec une iconographie sur son effet. On retrouve la même iconographie sur les cartes, doublée du texte en anglais. Les dés en plastique sont d'assez bonne facture et les colonies sont représentées par des petites miniatures en forme de dôme. Le jeu procure pas mal d'interactions entre les joueurs, il faut être à l'affût des plans de vos adversaires. On retrouve de l'interaction avec le nombre de places limitées sur les différentes stations orbitales et au fait que les dés placés restent en place jusqu'au tour prochain des adversaires. La possibilité de voler des ressources ou des technologies aliens avec l'avant-poste pirate rajoute encore de l'interaction. Et certaines technologies aliens, pour les plus violentes, pourront même aller jusqu'à détruire des vaisseaux ennemis. On ressent aussi pas mal de tension car les scores sont généralement très serrés. Les joueurs se talonnent et finissent généralement la partie en 1 à 3 points d'écart. Certains pourraient peut-être être rebutés par la grande présence du hasard, mais il faut savoir qu'on ne se retrouve jamais bloqué, même si le jet de dés que l'on a fait ne permet pas de réaliser l'action que l'on avait planifiée, on a toujours la possibilité de réaliser des actions. Cette mécanique nous oblige à systématiquement nous adapter et à réfléchir à un plan de secours si jamais les dés n'étaient pas favorables. Les technologies aliens permettent néanmoins de contrebalancer beaucoup ce hasard. Et certaines infrastructures favorisent les faibles jets de dés, comme le marché orbital qui permet d'échanger du carburant contre du minerai au coût défini par le dé que l'on va poser. Si vous aimez les mécaniques à base de dés maîtrisés et le thème spatial, n'hésitez pas à essayer Alien Frontiers. Vous trouverez la 4e édition en anglais chez Philibert au tarif de 49€. Cette édition inclut l'upgrade pack avec un certain nombre de matériel amélioré par rapport à la 3e édition. Si jamais vous avez des retours ou des commentaires sur la chronique ou éventuellement un jeu de ma collection que vous souhaiteriez que je présente, n'hésitez pas à me contacter soit sur Twitter, sur le compte Max Percastor ou sur BGG Percastor. Percastor avec un K. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro et d'ici là, jouez bien.
Merci Père Castor pour cette belle histoire, Père Castor, sur Alien Frontières. Lui ne vient pas de l'Est, mais de l'Ouest. C'est Yannibus qui nous a préparé un sous le buzz sur Metropolis. Alors bon, il s'est peut-être trompé avec sa chronique qu'il a écrit pour le site de cinéma, parce que Metropolis, c'est un film, Yannibus, c'est pas un jeu, tu t'es trompé. C'est une mauvaise chronique. À moins que, qu'en ayant vu Fritz Lang, il ait dit, ouais, ça devait être un collègue à Steffenfeld, je vais tester. Et en fait, c'était un film, Yannibus. Ben, on l'écoute quand même parler de ce film, Metropolis.
Bah c'est quoi cette vieillerie ?
Sous le buzz, par Yannibus.
Salut les joueurs, salut la Proxy Team. La dernière fois que vous m'avez entendu, c'était pour vous parler de mon jeu de l'année 2015, donc il s'agissait de Pandemic Legacy. J'ai terminé la campagne, je vous confirme que ça reste mon jeu de l'année 2015. Je vous invite à aller sur le forum du site proxy-jeux pour voir un petit update que j'ai fait sur ma chronique après que justement ma compagne en fait m'ait laissé tomber et j'ai continué la campagne en solo en jouant trois rôles, donc voilà, vous pourrez avoir les quelques updates. Mais nous reprenons le rythme ou en tout cas le thème de ma chronique sous le buzz avec aujourd'hui un jeu de construction de ville qui s'appelle Metropolis. Metropolis est un jeu de 2 à 4 joueurs de Sébastien Pochon, illustré par Arnaud Demegde et donc sorti aux éditions Istari. Édité par Istari, il est réalisé par Sébastien Pochon, il a été primé à Boulogne-Billancourt, au Festival de Boulogne-Billancourt, pardon, et il est illustré par non pas Arnaud Demegde comme d'habitude, mais par Mathieu Lessen. Voilà. Dans Metropolis, donc 2 à 4 joueurs vont devoir s'affronter pour construire leurs immeubles numérotés de 1 à 13 sur les quartiers d'une ville imaginaire. Metropolis existe en deux versions, une version familiale où les joueurs devront remplir un objectif, une version plus experte où les joueurs rempliront deux objectifs basés pour l'un sur la couleur des quartiers de leurs immeubles, occupés par leurs immeubles, et pour le second, d'une configuration d'un placement des immeubles. Alors que dans la version famille, le seul objectif concerne des placements d'immeubles autour d'un lieu remarquable, on va dire, de la ville, soit d'un pont, soit d'un lac, etc., etc. Le placement des immeubles se fait par un jeu d'enchères, en fait, où le premier joueur va positionner un de ces immeubles d'une valeur donc de 1 à 13, et les joueurs pourront enchérir sur un quartier adjacent à l'immeuble qui a été posé par le joueur précédent. Et donc, en fait, au fur et à mesure, l'enchère va se déplacer sur le plateau, et le meilleur enchérisseur, c'est-à-dire celui pour lequel les autres joueurs passent, retourne son immeuble qui affichait un numéro et qui là n'affiche donc plus rien, prend possession de cet immeuble. Et donc prend possession de ce quartier. Et sur ce quartier, on peut trouver également des petits jetons bonus ou des petits jetons malus. Le jeu se joue donc en maximum 13 tours, puisque la première personne à poser son 13e bâtiment termine le jeu et on mesure les scores. Les parties sont extrêmement tendues. Et même à 4 joueurs, ça se joue, je pense, en moins de... En tout cas, moi, pour en avoir fait un certain nombre, à 4 joueurs, on est bien en dessous des 45 minutes. On est plutôt autour de la demi-heure. Et à 2 joueurs, donc on utilise une moins grande... on n'utilise que 2 arrondissements, on va dire, de la ville. Et donc, celle-là, ça se joue en quasiment en 20 minutes. C'est réalisé. Metropolis est un vrai bon jeu familial. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec vraiment des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux de société. C'est également un jeu très retors avec lequel vous prendrez du plaisir, même avec vos amis experts. C'est un bon jeu si vous avez moins d'une heure à passer, par exemple dans une pause déjeuner au travail. Je ne peux que vous le recommander vivement. Comme dans Proxy Jeu, il y a proximité. Je voulais vous indiquer, j'avais pris la décision de m'investir un peu plus dans ma vie locale, de mon village, et j'ai décidé d'être secrétaire donc de l'association de jeux de mon village qui s'appelle JEPR, Jouons Ensemble un Pays de Ré. Je vous donnerai des petites informations donc des différentes sorties ludiques de cette région dans les prochains épisodes. D'ici là, jouez bien.
Ah ben non, en fait c'était le jeu de chez Istari. Yannibus, tu m'avais mal aiguillé en disant Metropolis. Mais c'est vrai que dans le Metropolis, la différence avec le film, c'est le Y. Parce que comme c'est un jeu Istari, il fallait forcément un Y. Et on termine les chroniques de ce mois avec Cyrus, qui va nous parler de Maudite Momie. C'est un peu sa passion pour le moment. Il a interviewé Christian Lemay, l'auteur, à Cannes. Et vous avez déjà dû entendre son interview. Il a interviewé l'éditeur Christian Lemay à Cannes lors de ce même salon. Et il vous en reparlera à coup sûr dans le 75 le mois prochain. Donc on écoute Cyrus nous parler de Maudite Momie.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler d'un jeu découvert à Cannes, dont j'ai déjà parlé dans les différentes rubriques cannoises. J'ai décidé de vous parler de Maudite Momie. Maudite Momie, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, édité chez le Scorpion Masqué, un jeu de Christian Lemay. Donc Maudite Momie, vous incarnez des explorateurs qui vont chercher des trésors dans les pyramides égyptiennes. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est un jeu de stop ou encore, avec une dose de bluff et pas mal d'interactions. C'est un jeu en fait dans lequel vous allez, pour commencer, donc avoir 2 piles de cartes qui vont représenter des salles, les salles de la pyramide que vous allez pouvoir explorer. Au dos de ces cartes, vous allez avoir un indicateur qui va vous indiquer la dangerosité de la carte. Vous allez avoir soit un indicateur vert, un indicateur jaune ou un indicateur rouge. Sous ces cartes, en fait, il va y avoir des trésors et éventuellement des gardiens, les gardiens de la pyramide. Sous une carte verte, vous allez avoir une chance sur 4 de trouver un gardien, ou plutôt une malchance sur 4. Sous les cartes jaunes, c'est une malchance sur 3, et sous les cartes rouges, c'est une malchance sur 2. Donc les rouges sont bien plus risquées, mais elles contiennent aussi potentiellement plus de trésors. Elles sont potentiellement plus intéressantes. Comment se passe le jeu? À votre tour de jeu, vous allez faire une action. Et puis ce sera au tour du joueur suivant, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un joueur atteigne les 35 points qui vont l'amener à la victoire. Et donc à votre tour de jeu, vous allez faire une action parmi les 3 possibles qui sont explorer une salle. Donc dans ce cas-là, vous allez piocher une carte au milieu de la table, parmi 2. En fait, vous avez 2 tas de cartes, ce qui fait que vous avez potentiellement un peu de choix. Donc vous piochez une carte, vous la regardez, et vous la mettez devant vous, face cachée. Évidemment, les autres joueurs ne doivent pas savoir ce que vous avez récupéré. Autre possibilité, sécuriser ses trésors. Sécuriser ses trésors, en fait, on va révéler ses cartes, et on va marquer les points qui sont dessus. Alors c'est assez simple, hein, c'est 1 point par trésor affiché sur les cartes, sachant que sur les cartes, il y a de 1 à 3 trésors. Il existe 4 couleurs de trésors différents. Et si vous avez au moins 2 cartes qui présentent les mêmes couleurs, eh bien vous allez doubler les points pour cette couleur-là. Donc évidemment, il y a 4 couleurs différentes, donc pour statistiquement réussir à avoir les 2 couleurs identiques, on va essayer de piocher des cartes et des cartes pour essayer de doubler les points. Et évidemment, c'est là que la troisième action devient intéressante, parce que la troisième action possible, c'est aller réveiller les gardiens chez un adversaire. Là, en fait, vous allez donc demander à un adversaire de retourner ses cartes. Là, vous n'allez pas regarder les trésors, vous allez regarder les gardiens qui sont sur les cartes. Alors, il existe 3 gardiens différents. Il y a évidemment la momie, d'où le nom du jeu Maudite Momie. Il y a des loups-garous. Alors, ne me demandez pas pourquoi il y a des loups-garous dans les pyramides, hein, mais bon. Bon, clairement, hein, thématiquement, c'est plus pour le fun qu'ils sont allés chercher... des loups-garous et la créature de Frankenstein, appelée Frank dans le jeu. Et puis d'ailleurs vous trouverez pas mal de clins d'œil un peu différents dans le jeu sur les cartes, voilà des petits clins d'œil anachroniques. Donc cette troisième action, réveiller les gardiens. Donc là on va regarder si les cartes de l'adversaire contiennent des gardiens. S'il y a au moins un gardien et qu'il n'y a pas d'amulette. Parce qu'il peut y avoir également des amulettes sur les cartes. Les amulettes protégeant, chaque amulette protégeant d'un gardien. S'il y a donc au moins un gardien actif, on va dire, dans ce cas-là, le joueur va perdre ses cartes. Donc perdre les points qui vont avec. Et vous allez réaliser l'effet de chaque type de gardien présent sur les cartes. Et là, ça peut être assez violent quand même. Parce que la momie, typiquement, elle vous fait gagner les points de l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt jackpot. Le loup-garou, lui, il va vous permettre de piocher des cartes au milieu de la table. Donc du coup, vous allez repiocher des cartes en plus. Et éventuellement, vous allez les garder ou les jeter. Vous faites ce que vous voulez avec. Et le Frank, le créateur de Frankenstein, lui, il va vous permettre de rejouer. Donc non seulement vous pourrissez le tour d'un autre, mais en plus vous rejouez. En revanche, si vous avez tort, c'est-à-dire que l'adversaire n'avait pas de gardien sur ses cartes, et ben là vous allez plutôt l'avantager puisqu'il va marquer ses points. Et donc forcément il va gagner un tour. Voilà, donc c'est vraiment tout simple comme jeu. Très peu de choix possibles en fait à votre tour, hein. Malgré tout ces choix là sont cruciaux puisque entre piocher une carte supplémentaire, alimenter ses trésors et empêcher éventuellement un adversaire d'aller marquer, c'est vraiment là que ça va faire toute la différence dans le jeu. Le jeu se joue de 2 à 6 joueurs, bon clairement c'est plutôt recommandé à partir de 3 ou 4 joueurs. À deux, voilà. Bon, j'ai joué à 2, c'est pas inintéressant, mais bon, tout le fun du jeu va se trouver à partir de 4 joueurs, quoi. C'est un super bon filler, c'est-à-dire que le jeu se joue, il est annoncé entre 15 et 20 minutes. 20 minutes, c'est avec l'explication des règles. Franchement, en 15 minutes, vous faites vraiment une partie. Et pour ne rien gâcher, l'édition est vraiment réussie. Des belles illustrations, donc c'est illustré par Nils. Et l'édition, oui, la boîte, vraiment, moi j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup le boîtage avec la fermeture magnétique, et puis le matériel est de qualité, même les petits jetons pour marquer les scores sont sur un punch super épais, j'étais hyper impressionné par l'épaisseur du punch pour faire ce jeton en fait, voilà, c'est la petite anecdote. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce jeu là? C'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu à Cannes. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, j'ai déjà fait 8 ou 9 parties, si je dis pas de bêtises. En général, de toute façon, je fais les parties au moins par deux. Et c'est tout simplement excellent. C'est un jeu que vous pouvez jouer effectivement en filler. Vous pouvez l'amener pour une pause de midi au boulot, ça passe nickel. En famille, ça passe très bien. Avec des enfants, on s'annonce à partir de 8 ans. Il y a une petite dimension de bluff, hein, évidemment, il faut éviter... de faire la gueule quand on pioche une carte avec un gardien dessus, surtout quand c'est la momie. Hein. Bon, pour la petite anecdote, on a joué à Cannes avec une joueuse qui n'était pas du tout poker face. Alors elle a largement perdu, mais en revanche on a fait une excellente partie, quoi. C'était vraiment très rigolo du coup. Parce que bon, le bluff était absolument pas réussi. Voilà. Donc c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, Maudite Momie, un jeu de Christian Lemay, édité au Scorpion Masqué. Le jeu, vous allez le trouver à 11,50€ chez Philibert. Que dire de plus, à part achetez-le, essayez-le, ouais, même pas, achetez-le, 11,50€, vous perdrez rien. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau jeu, et d'ici là, jouez bien.
Merci Cyrus, merci à tous les chroniqueurs. Voilà, c'est fini pour ce mois. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de cette présentation. Moi, ça m'a fait beaucoup moins de travail, donc ça m'arrange. Sinon, continuez à nous écouter, à parler de nous autour de vous. Continuez à nous noter sur iTunes, à nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc le mois prochain. Et d'ici là, jouez bien.